Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Il est 23h34 sur Europe 1 et nous accueillons Quentin au 39-21. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Olivier, bonsoir.
Bonsoir Quentin. Alors vous nous appelez de loin, hein. Je crois que vous êtes au Maroc actuellement et vous êtes
exactement
à Agadir.
Oui c'est ça, je vis à Agadir.
D'accord, vous avez 40 ans Quentin.
Oui.
Que faites-vous à Agadir ?
Alors je suis installé à Agadir maintenant depuis 10 ans.
Oui.
Et voilà, je suis en train, si vous voulez, de combattre pour faire valoir mes droits de père, pour vous expliquer un petit peu, voilà. D'ailleurs, il y a pas mal de similitudes avec les histoires
de Delphine et Cécile. Oui.
Moi. Exactement, oui. Exactement. Encore une fois, c'est une histoire de parents démunis face à la justice, et dans mon cas, face à deux justices. Parce que voilà, ça fait maintenant plus d'un an que je suis privé de mes droits de père par mon épouse en fait.
Alors votre épouse, moi, qui est marocaine, voilà, ou qui est française? Marocaine.
Exactement.
Je suppose.
Mon épouse est marocaine. Nous avons fait ce choix de la mixité, du métissage, qui était très très beau finalement. Moi voilà, j'étais vraiment très très enthousiaste, de vivre cette histoire d'amour, et puis finalement tout ça a viré un petit peu en cauchemar, étape par étape finalement, pour arriver à ce point de non-retour en fin d'octobre 2020 finalement, où après m'avoir expulsé du domicile, ma femme a disparu avec ma fille.
Oui.
Durant presque 5 mois, pour finalement être retrouvé. Et on a été contraint de signer un accord me permettant de voir ma fille au bon vouloir de ma femme en sa présence dans un lieu public. Et finalement, depuis le mois de mars, je vois ma fille une ou deux fois par mois durant une ou deux heures selon si ma femme, mon épouse, a envie de me laisser voir ma fille. Donc,
alors,
si vous voulez,
on va oui, bien évidemment parler de la situation qui est la vôtre là actuellement, Quentin. Mais j'ai pour habitude sur cette libre antenne, pour qu'on comprenne bien la situation, qu'on raconte son histoire en fait. Et bien évidemment, lorsqu'on débouche sur ce type de situation, ça veut dire qu'il y a eu deux adultes qui se sont rencontrés avant, qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. J'aimerais que vous me parliez de à partir de cette période, en fait. Combien de temps, d'abord, vous vous rencontrez où? Et ça dure combien de temps entre vous, en tout cas, le moment qui est bien et bon dans une histoire d'amour?
Alors, si vous voulez, j'ai rencontré mon épouse en fin 2011. Vraiment, je venais de m'installer ici à Agadir pour une nouvelle vie professionnelle. Je suis vidéaste indépendant. Et j'ai rencontré ma femme à la fin de 2011, et on a commencé une relation très très simple finalement, une relation amoureuse, avec effectivement la rencontre de deux mondes, de deux cultures, et la découverte de l'un et l'autre. Et finalement, tout se passait plutôt bien, honnêtement, malgré le fait que ma femme est issue d'un milieu social différent.
Qu'appelez-vous différent ?
En fait, si vous voulez, quand je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'amis, j'ai compris, parce qu'elle a été très secrète. Honnêtement, je vous expliquerai avec plus de détails en avançant dans notre histoire, mais au départ, elle s'est présentée comme une jeune fille qui travaillait dans l'esthétisme, et puis qui, voilà, sortait un petit peu le soir entre amis. Et si vous voulez, je l'ai rencontrée d'ailleurs dans une soirée. Elle me paraissait effectivement différente, dans le sens où elle était vraiment en décalage total avec le monde qui l'entourait, et finalement, pour en avoir parlé un petit peu plus tard avec elle, elle m'a effectivement dit qu'elle venait d'une famille très très pauvre, dont les parents étaient illettrés, mais qu'elle avait toujours essayé de se battre pour s'en sortir, qu'elle avait été déscolarisée très jeune, qu'elle avait travaillé à l'âge de 12 ou 13 ans à cultiver dans les champs de tomates. Ici, il y en a beaucoup dans la région d'Agadir. Enfin, voilà, elle m'avait exposé ces faits-là. Et moi, je vous avoue que j'ai été aussi séduit par ce personnage fort qui veut s'en sortir, qui veut aller de
Bien sûr,
l'avant,
oui.
malgré effectivement un départ faussé par tout un entourage qu'elle n'a pas choisi. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très beau. Et en toute honnêteté, moi, j'arrivais à Agadir avec des moyens modestes, mais l'envie de pouvoir aussi la sortir d'un contexte difficile. Mais encore une fois, je suis avant tout tombé amoureux d'elle, peu importe de quel milieu elle était
Oui.
issue et ce qu'elle avait vécu. Mais c'est vrai que dans notre relation initiale, il y avait cette notion de vouloir l'aider ou la sortir de quelque chose qu'elle n'avait pas choisi parce qu'elle était vraiment courageuse et motivée. Donc finalement, on a commencé une relation très très normale. Mais j'avais quand même cerné chez elle quelquefois des changements d'humeur ou des choses, voilà, des colères un petit peu plus sombres que j'en avais l'habitude de voir dans d'autres comportements parfois violents chez certaines personnes. Mais elle, c'était quelque chose finalement de très profond qu'elle ne maîtrisait pas. Mais je mettais ça sous l'excuse finalement du parcours difficile qu'elle avait vécu. Elle s'était un petit peu confiée à moi, donc j'avais compris qu'effectivement, en tant que femme, très jeune femme qui a voulu s'en sortir, elle avait dû se forger un caractère. Donc finalement, voilà, j'étais convaincu que je vivais une belle histoire d'amour avec une jeune femme qui désirait se sortir de sa vie actuelle et avec un fort caractère. Cependant, avec le temps, je me suis rendu compte que les choses n'étaient peut-être pas aussi belles que ça. En tout cas, voilà, la relation a avancé et il s'est posé la question du mariage. Ici, au Maroc, il faut savoir que une relation hors mariage est considérée comme illégale. Alors, on ne risque pas forcément de peine de prison, c'est pas aussi dur que ça, mais on est souvent contrôlé, on est souvent en tant que couple, surtout couple mixte, parce que ça
Répétez-moi
suscite
ça, un mariage entre un Français.
Un couple, non, un couple
Oui.
qui n'est pas marié, en
Oui.
relation, voilà,
Ah oui,
est
d'accord.
considéré, voilà, et comme illégal,
Est considéré
une
comme il est
relation
comme
hors mariage,
illégitime, en fait.
voilà, illégitime, si vous voulez, mais au vu de la justice, voilà.
D'accord. Et
Donc,
est-ce que la justice opère certains contrôles ou pas finalement? Est-ce que vous...
il est arrivé effectivement qu'en sortant d'un restaurant le soir, on s'en contrôlait par la police et qu'on nous demande qui on est l'un pour l'autre. Et généralement, n'étant pas mariés, il valait mieux répondre qu'on était amis, qu'on venait de sortir et que chacun rentrait chez soi. Alors que nous, on avait déjà commencé une relation de couple et qu'on
Oui.
vivait sous le même toit.
Ça veut dire quand même
Donc,
qu'il vaut mieux éviter d'embrasser sa fiancée dans la rue ou dans un endroit public.
c'est moins strict qu'à une époque, si vous voulez, vraiment moins
D'accord.
strict qu'à une
Ah,
époque,
je ne savais pas ça, dites donc, ouais. Moi, je ne savais
mais
pas.
en 2011, on était encore assez souvent contrôlé, oui, je vous dis, surtout en
D'accord.
couple mixte, parce que il y a toujours le spectre des jeunes femmes qui vont
De la
chercher des hommes,
prostitution, de la
enfin voilà.
prostitution,
Oui,
ouais.
aussi également, donc c'est partout dans beaucoup de pays, de toute façon,
Dans
c'est le
tous les
cas.
pays où il y a une population pauvre, de toute façon,
Voilà,
c'est
exactement.
et c'est
Exactement.
plutôt bien de veiller à ça.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, on était un petit peu sous la pression de la société aussi, mais aussi de sa famille finalement, parce que je n'avais rencontré personne de sa famille, et finalement l'excuse c'était ça, c'était tant qu'on était mariés, je ne pouvais pas être présenté, parce que voilà, traditionnellement, ça ne se faisait pas. Donc après plusieurs discussions en 2014, j'ai dit que finalement, si ça pouvait nous aider à vivre normalement dans
Oui.
notre vie quotidienne, et puis aussi faire en sorte que nos familles se rencontrent et qu'on puisse vivre une union plutôt normale, on a décidé de se marier, mais très simplement d'ailleurs, juste signer des papiers. On n'a pas forcément fait de fête extraordinaire.
Vous ne faites pas de
Mais
fête,
si vous...
mais vous officialisez cet
Voilà.
amour que vous vivez depuis 3 ans avec cette jeune femme. Et
Exactement.
donc, vous vous mariez. On va marquer une petite pause, Quentin, et puis on se
Je vous en
retrouve dans
prie.
quelques secondes. À tout de suite.
Très bien.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Il est 23h44, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne. Et vous pouvez toujours appeler, bien évidemment, Florian et Julia, qui attendent vos appels en régie. Quentin, donc vous vous mariez en 2014. Racontez-moi la suite.
Alors, on se marie donc en avril 2014 et si vous voulez, on a la signature des papiers chez la doule, comme ça se fait ici, c'est un représentant religieux. Oui. On établit ce qu'on appelle une dot de mariage et je le découvre finalement. Je ne me suis pas forcément renseigné, je suis ma femme dans les différentes démarches, mais voilà, je découvre cette dot. Et bon, voilà, ma femme me fait comprendre, on était en compagnie d'un de ses frères, que ce serait bien de mettre une somme relative, et pour vous la nommer, c'était 50 000 dirhams, ça représente 5 000 euros.
D'accord.
Bon, sur le moment, je ne fais pas vraiment attention. Il y a une dot, moi je la prends sur le moment, on me dit que de toute façon, ce n'est pas une somme à verser maintenant, c'est une chose dont on parlerait effectivement en cas de divorce ou voilà, donc on me fait comprendre que c'est pas très grave, que tout le monde fait ça et que la somme finalement elle est c'est la somme moyenne que tout le monde met. Bon, au moment où je signe le document, je n'ai vraiment aucune information là-dessus. Je suis très amoureux, à aucun moment je pense au divorce. Voilà, je signe volontiers le document et nous sommes mariés. Et finalement ce détail je l'observe aujourd'hui avec plus de recul et peut-être que ça aurait dû être une première alerte. Je vous explique pourquoi. Parce que finalement, suite au mariage, je rencontre enfin ma belle famille et oui. Finalement, une partie des choses que ma femme m'avait cachées se dévoile à mes yeux. Donc, bon, effectivement, c'est une famille très, très démunie. Mais j'apprends que trois de ses quatre frères multiplient les courts séjours en prison parce que on essaie de se débrouiller comme on peut dans leur petit quartier et voilà, c'est souvent des petits délits et voilà. J'apprends également qu'elle a une sœur mais qu'elle vit en Suède, qu'elle s'est mariée avec un Suédois très 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 âgé. Mmh. Et je me dis que voilà, c'est sa famille, elle
qu'est-ce,
n'a pas
qu'est-ce
choisi.
Qu'est-ce qui vous gêne dans tout ça? C'est que finalement votre femme vous l'est cachée.
Non, ce qui me gêne aujourd'hui, si vous voulez, c'est le recul de tout ça, parce que sur le moment, je le vis en toute naïveté, je fais pas attention à tout ça. C'est juste qu'aujourd'hui, d'accord, je me dis qu'il y avait peut-être des signaux que finalement, voilà, sa sœur, elle est partie en Suède, elle s'est mariée avec une personne qui avait presque 40 ans de plus qu'elle, qu'elle a fini par divorcer avec lui, qu'elle a fini par s'installer définitivement en Suède et qu'elle a refait sa vie. Voilà, et je me dis que finalement, mon histoire d'amour, aujourd'hui, hein, attention avec le recul, sur le moment, je ne vis pas du tout ça comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, je me dis que c'était peut-être pas totalement sincère. Mais en tout cas, je n'en sais rien puisque ce ne sont que des suppositions. Mais
est-ce que,
voilà,
durant ces trois ans, en tout cas au moment où vous vous mariez et où on vous demande la dot, hein, ce qui se pratique là-bas, qui est une tradition un peu, hein, si j'ai bien compris.
Oui.
Est-ce que durant ces trois ans, il vous arrive parfois de tiquer un peu? Ou est-ce que vous sentez votre femme amoureuse durant ces trois années? Est-ce que...
Non, je la sens très amoureuse, voilà, et okay. Je la sens vraiment... Alors, honnêtement, je suis quelqu'un qui fait vraiment confiance assez rapidement. Voilà, elle sortait de temps en temps sans moi, elle vivait sa vie. Enfin, je veux dire, j'ai jamais été suspicieux et j'ai senti... Enfin, je ne sentais pas forcément qu'elle jouait un rôle. Elle avait l'air aussi très très amoureuse. Donc finalement, je vous dis, aujourd'hui, j'analyse ça, mais peut-être que je me trompe. C'est juste que ce sont différentes ombres dans notre parcours qui peuvent, avec le recul aujourd'hui, m'alerter sur la sincérité ou pas de ma femme. Mais le problème est plus difficile et on y vient d'ailleurs parce que, comme je vous l'ai dit, elle a un sombre côté où elle a des humeurs changeantes. Et ça, en fait, ça s'intensifie. Au fur et à mesure, au-delà du contexte familial, au-delà effectivement des différentes personnes qui composent sa famille, c'est surtout son comportement qui commence à me poser des questions parce que je sens qu'elle ne se maîtrise pas, qu'elle a de plus en plus de colère, qu'elle est nerveuse.
Elle est pleine
de, ouais, elle est très très nerveuse, elle est d'humeur changeante de temps en temps. Elle déprime un petit peu et puis bon, on avance. Moi, je décide de lui créer une petite société de manucure à domicile, enfin voilà, ça se passe très bien d'ailleurs avec ma famille, hein, au début tout du moins. Ça
votre
se passe
belle
très
famille
bien. Non, avec ma famille à moi aussi,
ah
dans
oui,
le sens
d'accord.
où on n'a pas abordé ce sujet-là, mais ce sera important plus tard parce que justement ça va se durcir avec ma propre famille. Mais voilà, ma famille a aussi découvert mon épouse, ça se passe très
Votre
bien.
famille est en France ou elle est-elle
Oui,
aussi... D'accord,
oui,
ok.
oui. Ma famille est en France, mais voilà, elle me visite de temps en temps. Et nous avons d'ailleurs fait plusieurs séjours en France avec mon épouse et avec mon épouse et ma fille par la suite. Mais tout se passait bien. Et en fait, ce qui était difficile, c'est que les peu de fois où j'ai pu discuter de ces changements de comportement et d'humeur avec mon épouse, où j'ai, voilà, mis le doigt sur ce sujet, je me suis heurté à un mur finalement, parce que il faut savoir que les troubles comportementaux ou les troubles mentaux, psychiques, sont des choses vraiment très peu abordées au Maroc. Surtout dans une certaine catégorie sociale, c'est tabou. Et en fait, si vous voulez, pour en avoir discuté plus sérieusement avec elle, parce que ça devenait dérangeant dans notre relation, ça devenait de plus en plus tendu, et elle avait déjà quelques actes de violence, je me suis confronté en fait à d'autres croyances. Elle était consciente qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en elle. Mais si vous voulez, selon elle, c'était à cause de la magie
À cause de
qu'elle
la
avait
magie,
subi, voilà,
de la magie
qu'elle avait
noire.
subi, bah oui, la magie noire qu'elle aurait ou qu'elle avait subi étant plus jeune. Donc à ce moment-là, ça c'était avant la naissance de ma fille, je découvre un nouveau monde. Mais vraiment, voilà, je me heurte à un monde que je ne connaissais pas, ou tout du moins pas directement. On en a tous parlé, ça existe un petit peu dans tous les pays. Maintenant, pour en avoir discuté un petit peu avec mes proches ici, j'ai appris que c'était même très très pratiqué ici. Mais voilà, en fait, elle est consciente à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, qu'elle a une colère qu'elle ne maîtrise pas, mais elle me dit que c'est à cause d'une magie, de la magie noire qu'elle aurait subie étant plus jeune. Honnêtement, je suis un peu démuni à ce moment-là face à cette réponse parce que je ne sais pas si elle est vraiment sérieuse ou si, je ne sais pas, vraiment, je me heurte à quelque chose que je ne connaissais pas. Et là, donc, ma belle-famille, la relaie et me maintient qu'effectivement, si mon épouse est comme ça et si de temps en temps, elle est très difficile à gérer, c'est parce que... Une de ses tantes, jalouse à l'époque, aurait pratiqué la sorcellerie.
D'accord.
Bon, écoutez, je vais être très honnête avec vous. J'ai réussi à m'en persuader. C'est-à-dire que après avoir discuté plusieurs fois de ça, après avoir vu certaines choses chez moi où ma belle-mère venait brûler tout un tas de choses, faire des incantations. Enfin, vraiment, du jour au lendemain, la magie a débarqué aussi à mon domicile, au quotidien. Et j'ai presque fini par croire que c'était possible, honnêtement, qu'elle ait subi quelque chose. Voilà. Puisque de toute façon, moi, j'avais essayé de l'emmener vers les soins médicaux et qu'elle avait refusé. Voilà, on était passé vraiment à autre chose et ouais, honnêtement, c'est peut-être stupide à l'admettre aujourd'hui, mais je m'étais convaincu que c'était possible. Voilà, parce que j'arrivais pas à comprendre comment elle pouvait comme ça, en un claquement de doigts, changer totalement de comportement, même physiquement, devenir quelqu'un de presque animal. Et ça s'est vraiment dégradé. Et là où tout a basculé finalement, c'est que en 2015, fin 2015, elle est tombée enceinte et très vite, elle m'a reproché d'être tombée enceinte. Alors, c'était pas prévu, en toute honnêteté, on n'avait pas prévu de faire un enfant, mais moi j'étais très enthousiaste et elle, tout de suite, voilà, elle m'a reproché ça. Elle a commencé vraiment à déprimer tout au long de la grossesse, ça a créé une fracture entre nous. C'est vraiment Ça a créé une distance et puis elle avait toujours de plus en plus d'accès de rage, de colère. Et puis petit à petit, elle a commencé à s'en prendre à ma famille, à me dire oui, de toute façon, ta famille, elle est trop bien, elle est trop si, à créer un espèce de complexe d'infériorité. Elle a commencé vraiment à détester ma mère, en premier lieu, alors que ma mère avait, voilà, a toujours été... admirable et très gentille avec elle, que lors de la création de sa société de manucure, c'est en partie ma mère qui avait aidé à l'achat de toutes les fournitures. Enfin, voilà, c'était une relation belle-mère, épouse plutôt normale. Mais du jour au lendemain, dès l'instant qu'il y a eu la grossesse, elle a commencé vraiment à vouloir même m'isoler parce que mes amis étaient plus assez bien. Enfin, voilà, elle a commencé à m'isoler et j'ai commencé également à m'isoler. Et puis est arrivé l'accouchement, la naissance de Mia, c'est notre fille. Mmh. Et j'ai assisté à l'accouchement et ça a été, je pense, pour elle, un traumatisme physique parce que ça s'est très, très, très mal déroulé. Ça a été très, très long. L'anesthésiste n'était pas disponible. Enfin, elle a vécu un accouchement vraiment très, très difficile. Et à partir de la naissance de Mia, les jours qu'on suivit, ça a été un véritable enfer. C'est-à-dire oui. qu'elle a eu des crises d'hystérie, elle était vraiment... Et très très vite, finalement, comme elle m'avait reproché le fait de tomber enceinte, elle m'a aussi reproché la naissance de Mia et très vite, elle l'a délaissée. Très vite, elle l'a délaissée. Alors moi, j'ai tout de suite assumé les deux rôles finalement. Et puis, je suis tombé profondément amoureux de ma fille. Et puis finalement, tout l'amour que je pouvais porter, je l'ai porté à ma fille. Donc oui. j'ai commencé un petit peu à délaisser ma femme. Et puis tout s'est accéléré. C'est-à-dire que là, c'était des violences au quotidien, des disputes pour n'importe quel sujet, c'était des humiliations quotidiennes.
Je vois, enfin, Quentin,
très, très difficile.
Je vois, Quentin, que vous vous êtes entretenu avec l'un de mes collaborateurs et que vous lui avez confié avoir été régulièrement battu et insulté. C'est très dur.
C'est très dur, mais si vous voulez... Alors, comment ça commence, ça c'est une première gifle hein, qu'elle me donne comme ça suite à une dispute et puis finalement ça se systématise, finalement la dispute devient tout de suite de la violence. Et alors honnêtement, voilà, je suis constitué, je fais 1m80, je fais 80 kilos, les coups ne me font pas mal physiquement, mais je sais pas, j'ai aucune réponse face à ça. Quand j'en parle à la famille, on me dit que elle est comme ça, c'est la magie, il faut accepter, ça va passer. Voilà.
La magie noire.
Oui, toujours ça. En fait, si vous voulez, moi, ouais. pour moi, c'est des troubles psychiques. C'est, je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que c'est un mélange de tout.
Ce sont des troubles. Commence à devenir... elle est peut-être bipolaire aussi, tout simplement, votre femme.
Ouais, parce qu'elle a aussi des
gros downs, vous me disiez.
Des downs, mais aussi des séquences de paranoïa extrêmes, oui. extrêmes. J'ai des histoires comme ça où elle me réveille en pleine nuit en me frappant, en prétextant parce qu'il y a une panne d'internet, comme ça peut arriver ici au Maroc assez souvent, que la panne est due à un piratage que je ferais via le réseau Wi-Fi dans son téléphone pour espionner quelque chose. Donc là aussi, ça m'alerte. Je me dis, mais pourquoi elle est aussi paranoïaque et pourquoi elle pense que je vais aller pirater son téléphone? Donc, je commence aussi à me faire des films, à me dire qu'elle me cache forcément quelque chose. Ça tend vraiment au quotidien. Et puis, Mia a 6 ou 7 mois, ça doit être en février 2017.
Avant que vous me parliez de cette date de février, parce que je
oui,
crois que
je
c'est...
Comprends.
Ah non, c'est en octobre, en fait, hein, que le point de non-retour va être atteint. Je pense que là, vous avez vécu quand même un mariage, en tout cas, 3 années, les 3 premières années, plutôt calme. Et finalement, c'est cette grossesse qui est quand même un état très compliqué pour... Généralement, hein, c'est dur, hein,
et
qu'elle est mise à l'épreuve. Donc, on va s'arrêter là, et puis on va continuer à vous écouter, mais on laisse passer l'info sur Europe, et puis on se reparle dans quelques minutes, d'accord ?
Très bien, Olivier.
À tout de suite, Quentin.
Très bien.
Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Minuit passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes bien sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, comme tous les jours, de 22h30 à 1h du matin, 7 jours sur 7, Europe 1 ouvre ses ondes et vous donne la parole. Et vous le savez, vous pouvez venir vous raconter, comme Quentin ce soir le fait, depuis Agadir où Quentin nous raconte son histoire, la rencontre avec sa future femme marocaine qu'il épouse au bout de 3 ans, et puis une grossesse, mais avant la grossesse des problèmes déjà d'humeur, et puis la découverte des origines, en tout cas des origines sociales de sa jeune femme en fait, qui le lui avait caché. Quentin découvre aussi les humeurs changeantes de sa femme et on parle de magie noire. En fait, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, cette magie noire, en fait, c'est votre belle famille qui vous en parle quand elle n'est pas bien ou c'est votre femme qui en parle ou les deux, finalement ?
Alors, dans un premier temps, c'est ma femme qui m'en parle et finalement, moi, je cherche un petit peu à creuser et j'en parle avec ma belle-sœur. Qui est une des seules d'ailleurs à parler un peu français dans ma belle famille avec mon épouse. Donc j'en parle très ouvertement avec elle parce que je dis voilà, tu connais très bien ta sœur, il y a des choses qui ne vont pas dans son comportement et elle me dit la même histoire finalement, elle me dit comme mon épouse que elle a subi étant plus jeune un sort de la part d'une tante jalouse, bref,
oui,
une histoire de famille. Et si vous voulez, bon moi j'en parle un petit peu autour de moi et puis il faut savoir que je vis à Agadir, que mon épouse a grandi à Inesgan, dans la banlieue populaire d'Agadir, un petit quartier très 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 populaire qui s'appelle Tarast, mais qui sont originaires d'une ville plus au nord qui s'appelle Safi. Et pour en avoir un petit peu
d'idée autour de moi, je connais bien,
c'est une région qui croit beaucoup en la magie. Et voilà, donc... voilà, on me dit qu'effectivement, il est possible que cette famille y croit, qu'il la pratique aussi certainement. Et puis, chacun me dit, selon son propre sentiment, que ça n'existe pas vraiment, que ce sont des croyances.
Mais on peut penser, sa fille étant à presque 200 km hein, d'Agadir, c'est ça ?
Oui,
dans le sud, hein, vers la frontière du Sénégal. Et. C'est assez retiré. Hein. Ça se développe aujourd'hui un peu grâce au surf, hein, qui était pas mal pratiqué.
Non, vous confondez, Olivier, pardon, vous confondez avec Darla.
D'accord.
Darla qui est au sud. Non, Safi est plus au nord. Safi est plus au nord, finalement.
Alors, Safi, c'est plus haut, en fait, vers Essaouira, c'est ça ?
Voilà, c'est au-dessus d'Essaouira.
Donc, c'est un petit port,
et Casablanca.
Et on fabrique beaucoup de poteries.
Port de pêche. Voilà,
port de exactement. Pêche, et on fabrique beaucoup de...
Et toute
de...
la poterie, voilà,
ouais,
qui est vendue
bleue,
en artisanat. Exactement.
D'accord.
Il y a beaucoup de poteries.
C'est ravissant,
de la région de Safi.
La poterie venant de Safi est magnifique, je trouve.
Est très connue. Ouais, c'est très
Je vous dis ça parce que j'en ai fait venir un conteneur il y a très longtemps quand je faisais ce genre de choses. Et j'ai adoré, en fait... cette région-là. Mais bon, passons, c'était une parenthèse. Elle est d'accord, elle est de là-bas. Il me semblait bien, mais comme vous m'avez parlé d'Agadir, je me suis dit, tiens, je confonds entre Darla, oui, c'est ça, et sa fille.
Oui, c'est Darla.
D'accord. Et donc, vous la rencontrez à Agadir quand même. Que faisait-elle, en fait ? Elle avait trouvé du boulot à Agadir parce qu'elle était bien loin de chez elle, là, quand même.
Non, ils vivaient déjà à Inesgan. Ils sont originaires de Safi, mais elle a grandi à Inesgan, qui est
d'accord.
La banlieue d'Agadir.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Mais toute la famille est originaire de Safi, et la tante qui aurait jeté un sort, je dis bien en conditionnel, serait encore aujourd'hui domiciliée à Safi. Mm-hmm. Donc elle a toute une partie de sa famille qui est là-bas. Et voilà, donc pour revenir à ça, je vous dis, même... les membres de sa famille me racontent la même histoire. Donc, je vous ai dit, c'est peut-être stupide aujourd'hui, on peut me juger pour ça, mais j'ai fini par être convaincu de ça. Et c'est même aller plus loin, parce que je peux vous livrer quelques détails, mais au-delà du fait que la maman venait assez souvent à la maison faire voler tout un tas de choses, voilà, réciter des prières, mon épouse m'a même demandé des choses risibles aujourd'hui, je vous avoue, mais un jour elle m'a demandé l'urine de ma mère. Voilà. Donc quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit qu'elle allait préparer quelque chose pour me protéger. Parce que finalement, moi aussi aujourd'hui, j'étais peut-être potentiellement touché par la magie. Voilà, sous prétexte toujours de la jalousie de sa famille, qui n'accepterait pas qu'elle ait rencontré un occidental. Voilà, donc tout ça mélangé, et je vous dis, moi j'en suis presque convaincu. Alors, je l'arrête, je refuse sa demande, ça va pas plus loin, mais elle commence même à m'effrayer parce qu'elle me dit que moi, potentiellement aussi, je suis touché par la magie. Donc,
Et c'est très dérangeant, en fait, qu'elle croie à tout ça. Très dérangeant.
c'est très dérangeant parce que vous pouvez pas discuter vraiment sereinement de choses sérieuses. Et puis, je vous dis, moi, je me renseigne, et puis, il y a personne, il y a un psychiatre, aujourd'hui, je crois qu'il y a un psychiatre pour 100 000 habitants au Maroc. C'est vraiment quelque chose
C'est
qui
fou, ça, c'est
n'est
fou.
pas traité du tout. Et pour avoir un peu étudié les choses, bon, il y a certainement une étude plus récente, mais en 2010, il y avait près de 40% de la population marocaine de 15 ans et plus qui avait été touchée ou qui était encore touchée par des troubles psychiques. Donc, une partie de la population.
C'est fou qu'à Agadir, même pour les gens un peu plus argentés, je dirais, il n'y a pas de psy et de psychiatre là-bas?
Alors moi, je me suis entretenu récemment avec un spécialiste en psychiatrie qui est ici à Agadir. Il y a une cellule, justement parce que je voulais faire expertiser ma femme. Donc on m'a expliqué que ici, ça se faisait pas, ça se pratiquait pas. Et il m'a dit quand même, oui, bien sûr qu'il était consulté par certaines personnes, mais c'est vraiment une petite partie de la population locale, parce que on est loin quand même de la grande ville de Casablanca. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de personnes issues de milieux modestes. Et généralement, dans ces milieux-là, on a plutôt tendance à avoir des croyances comme ça, à rapport aux esprits, aux djinns, aux gnouns, comme vous appelez, on peut appeler ça de différentes manières, mais finalement, tous ces troubles sont toujours mis sous quelque chose de surnaturel dans ce milieu social, en tout cas. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont d'un autre milieu social autour de moi. Bien sûr qu'ils ont le réflexe d'aller vers des soins ou des choses, voilà, comme on peut le voir chez nous en France, mais pour une grande partie de la population, ça reste tabou. Tout
D'accord.
comme le handicap ou des choses comme ça. Vraiment, dans la société marocaine, c'est là, pour le coup, c'est une vision totalement opposée à la nôtre, parce qu'on
Oui,
traite
oui,
la
oui.
psychiatrie en
Bah, on
France
est
et.
loin, on est loin. Hein, là. Quand on vous écoute, on réalise que on est loin de la conscience occidentale. On est tout à fait transporté ailleurs.
Mais surtout à Agadir, je vous dis, après Casablanca ou Rabat, ou sont des villes quand même.
Marrakech,
Qui brasse
peut-être.
plus de gens de différents milieux. Et puis, oui, même Marrakech, finalement. En plus, Marrakech, aujourd'hui, il y a beaucoup aussi d'expats européens. Mais Agadir, ça reste, et comme Safi, d'ailleurs, des régions où on est plutôt porté sur ses croyances. Donc, je me heurte à ça, finalement. Elle ne veut pas vraiment d'aide, elle ne veut pas se faire soigner. Ça s'intensifie. Et puis, je reviens à cette date que j'avais annoncée un petit peu avant, en février 2017. Elle décide de partir en Suède avec ma fille pour la présenter à sa sœur qui s'est établie là-bas depuis quelques années. Et moi, à l'époque, voilà, j'étais engagé sur des contrats. Comme je vous l'ai dit, je suis vidéaste. Donc, je lui dis de partir seule. Elle voyage seule avec
Avec
notre fille
votre
Mia qui
petite-fille.
avait 7 mois à l'époque. Initialement pour un séjour de 2 semaines. Donc, je fais en sorte de lui obtenir son visa et elle part. Et au bout de 2 semaines, j'ai plus de nouvelles. Pendant 15 jours. Donc le
Plus de
séjour se
nouvelles.
prolonge. Plus de nouvelles. Aucune réponse sur
Incroyable.
son téléphone, le téléphone de sa sœur, plus de nouvelles. Et puis au bout de 15 jours, j'arrive finalement à la contacter et puis elle me dit qu'elle rentre pas tout de suite, mais sans m'en dire plus. Et puis j'essaye de garder contact, mais c'est une fois, 2 fois par semaine, c'est très espacé. Et puis ça dure, et elle finit par réapparaître à Agadir sans me prévenir. Au bout de 3 mois. Donc pendant 3 mois, elle me balade comme ça chaque semaine en me disant je rentre pas tout de suite. Et moi, je me fais énormément de soucis, mais je garde en tête aussi qu'elle n'a un visa que de 3 mois. Donc j'espère ça durera pas plus de 3 mois. Et finalement, elle est allée au bout du visa, elle est rentrée la veille ou l'avant-veille de l'expiration de son visa. Donc là, encore une fois, je lis ça très mal et je commence à avoir peur. Je me dis pourquoi elle fait ça, quel était son but, elle ne s'explique pas, elle se renferme toujours. Et puis, de nouveau, elle délaisse Mia, je m'occupe au quotidien de ma fille, voilà, les biberons, les bains. Mia grandit un petit peu, je vais essayer de synthétiser un petit peu, elle rentre à la crèche. Et comme je vous l'ai dit, je suis vidéaste indépendant, donc vraiment je rythme mon emploi du temps professionnel avec ma vie de papa. Comme je vous l'ai dit, j'assume les deux rôles. J'emmène ma fille le matin à la crèche, je vais la chercher le soir. Le soir, je la baigne, je lui prépare son dîner. Et finalement, on commence à vivre à deux dans notre coin, et ma femme s'isole et devient de plus en plus incontrôlable. Vraiment, ça, c'est des crises. Voilà, elle casse tout. Elle est de plus en plus, comment je dirais, marquée physiquement dans ses colères. Elle en vient un jour à me cracher dessus, à vraiment baver de
Oui,
rage, mais des
elle a un
colères
problème,
noires
votre
pour des
femme.
choses
Elle a un problème.
futiles.
Ouais.
Je vous dirais, par exemple, comme je vous l'ai dit, j'assumais les deux rôles. Donc, je faisais vraiment toutes les tâches du quotidien. Ménage, les repas, enfin voilà. Et pour un plat qui ne lui plaisait pas, elle était capable de casser toute la cuisine ou de jeter le plat par la fenêtre, comme elle a jeté d'ailleurs mes affaires, la totalité de mes affaires par la fenêtre du cinquième étage. Enfin, je vous dis, j'ai vécu des choses.
Oui. Bon, enfin, en tout cas, on voit que vous vivez des
C'est
scènes de violence et
ça.
de comportements hystériques. On en vient donc à cette journée du 20 octobre, puisque là, vous dites que tout va basculer. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là?
Alors, peu de temps avant, juste pour vous expliquer en une phrase, en étant très rapide, en 2018, après une nouvelle nuit d'horreur où je suis séquestré toute une nuit sur un balcon avec une porte blindée et des barreaux aux fenêtres, parce que les balcons étaient protégés des cambriolages, on se sépare. Fin 2018, on se sépare, et là, je commence à me renseigner sur un potentiel divorce. Je vous dis la vérité, j'en peux plus, c'est plus possible, voilà, ça va pas. Donc, je me renseigne et j'apprends que depuis 2004, au Maroc, le code de la famille a changé et que dans 99,9% des cas de divorce, la garde est automatiquement donnée à la mère. C'est très simple. Je consulte 5 ou 6 avocats à l'époque et ils ont tous le même discours, me disent, parce que j'explique que ma femme n'est pas en capacité d'élever ma fille seule et que je veux la garde de ma fille, et je veux me battre pour prouver qu'elle n'est pas en capacité d'élever ma fille. On m'a dit que non, de toute façon, il y a eu plein de cas similaires où la mère est complètement déséquilibrée ou toxique, ou même, comme on disait tout à l'heure, dans des réseaux de prostitution et que potentiellement les enfants sont en danger, les gardes sont automatiquement données à la maman. Et on me dit même à l'époque que lors d'un mariage, d'un divorce, pardon, avec consentement mutuel, les parents décident d'une garde alternée et que le juge ordonne la garde à la mère. Donc je vous dis, on m'expose que finalement, si je demande le divorce, je donne la garde de ma fille à ma femme, et je sais à ce moment-là qu'elle est incapable de s'occuper de ma fille. Donc au bout de 3 ou 4 semaines de séparation, je décide de retourner vivre avec ma femme, de revivre cet enfer. Donc, suite à ça, vous m'entendez, Olivier?
Oui, je vous entends très bien.
Ah, pardon, excusez-moi, j'ai cru qu'on avait été coupé.
Non, non.
Suite à ça, donc, je vous dis, je retourne vivre chez moi, et puis, bon, bah, les violences continuent, mais j'essaye toujours de protéger ma fille. Et puis je m'isole, je vous dis, finalement c'est le travail, ma fille, le travail, ma fille. Je donne très peu de nouvelles à ma famille en France parce que bah, c'est un mélange de plusieurs choses, hein,
Oui, mais
de
votre famille ne
honte.
doit pas valider tout ça en plus.
Non, et puis j'ai pas envie de créer une souffrance chez eux parce
Oui,
que
oui.
bon, déjà ils sont dépassés par certaines choses. C'est-à-dire qu'eux aussi, finalement, ont découvert une autre culture, même si je vous l'ai dit au début, tout se passait bien, mais voilà, ils ont été déjà confrontés à plusieurs choses, mais je ne pouvais pas expliquer ça ni à mes amis d'ailleurs, parce que quelque part, il y a de la pudeur, il y a de la honte, il y a de la culpabilité, il y a beaucoup de choses, de sentiments mélangés. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas qu'on s'habitue ou qu'on accepte ces violences ou ces humiliations, mais on n'a pas d'autre solution. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas d'autre solution. Je voulais continuer à protéger ma fille, à être là au quotidien, à faire en sorte que tout se passe bien. Et du coup, bah, je subissais tout ça. Et donc, voilà, on a revécu ensemble. Et puis est arrivé dans un premier temps le confinement en mars 2020, comme en France, un peu partout dans le monde, où les couples se sont retrouvés enfermés. Et nous, c'était déjà très compliqué n'étant pas enfermés, mais avec le confinement, tout ça a pris encore plus d'ampleur et c'était devenu incontrôlable. Et puis on en vient enfin à octobre 2020, Olivier. Et lors d'un séjour de ma mère, qui était venue nous rendre visite en vacances pendant 2 semaines en octobre, On a vécu vraiment un week-end cauchemardesque où ma femme a multiplié les crises, les disputes, les violences. Elle a d'ailleurs agressé une première fois ma mère physiquement, la repoussant violemment au sol. Enfin voilà, des choses qui m'ont fait très très peur. Et lors d'une énième dispute, elle m'a menacé d'un couteau. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de prendre ma mère et de quitter le domicile parce que ça devenait vraiment vraiment dangereux. Et je suis parti consulter un de mes amis, voilà, parce que j'étais vraiment dépassé par tout ça. Un ami d'ailleurs qui n'était vraiment pas au courant de ce qui se passait chez moi. Donc dans un premier temps, il m'a conseillé de me calmer, de prendre un petit peu de distance. Et puis, en fin de journée, on a décidé quand même de rentrer à la maison. Et comme nous sommes rentrés à mon domicile, nous sommes aperçus que mon épouse avait changé les serrures du domicile et qu'elle était partie. Donc à ce moment-là, la nuit commence à tomber, je suis avec ma mère sur le palier de la porte, on n'a rien, aucune affaire, aucun papier, aucun argent, j'ai juste mon téléphone, donc j'appelle un ami qui a un hôtel ici à Agadir et il accepte gentiment de nous héberger. Donc on part à l'hôtel. Pendant 3 jours, j'ai aucune nouvelle, j'essaye d'appeler mon épouse, aucune réponse. Au bout du 4e, j'arrive enfin à la joindre et voilà, je lui fais comprendre que il faut qu'on discute, qu'on se voit. Elle me dit que non, c'est pas la peine, qu'elle veut bien me donner les affaires de ma mère, parce que toutes les affaires de ma mère qui séjournaient chez nous étaient au domicile et ma mère devait repartir quelques jours plus tard en France. Il y avait son passeport, elle avait un traitement, des médicaments à prendre, enfin tout ça, elle n'y avait plus accès. Donc le 30 octobre, elle décide de nous ouvrir pendant 1 heure le domicile. Moi, je tape ma caméra, 2, 3 pantalons, une chemise, et elle nous ressort du domicile. Et à ce moment-là, et jusqu'au 24 décembre, je n'ai plus aucune nouvelle, rien. C'est-à-dire que je commence à vivre à l'hôtel, ma mère, entre-temps, rentre en France. Et tous les jours, j'appelle, j'ai aucune réponse. Donc, je décide de déposer une première plainte auprès du procureur d'Agadir pour enlèvement d'enfant, refus de remettre l'enfant à son tuteur légal, pour les violences, pour les menaces. Voilà, j'ai déposé une première plainte par le biais d'un écrivain public, sans l'aide d'un avocat dans un premier temps. Cette plainte est enregistrée chez le procureur, mais elle est très vite classée. Je ne suis pas convoqué pour être auditionné. Mmh. Donc je dépose une deuxième plainte un mois plus tard, encore une fois par l'intermédiaire d'un écrivain public, et une nouvelle fois, elle est classée sans suite. Donc là, je décide de prendre un avocat. Entre-temps, je fais constater à plusieurs reprises par un huissier le fait qu'elle ait changé les serrures du domicile et que je suis expulsé. On arrive une ou deux fois à la surprendre au domicile avec ma fille, avec l'huissier, et je demande de pouvoir voir ma fille et elle refuse.
C'est encore une C'était fois, chez vous, pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous louiez là-bas?
Nous étions locataires.
Locataires, d'accord.
Locataires, et si vous voulez, on a déménagé plusieurs fois durant ces 8 ou 9 années, mais sur le dernier bail était à son nom. Parce qu'au moment où on a déménagé, moi j'étais en tournage, et il s'est avéré qu'elle a signé le dernier bail dans lequel on vivait. Et du coup, c'est aussi une des pièces qui porte un petit peu problème dans cette histoire, c'est que, après avoir sollicité la police, on m'a dit que j'avais aucun intérêt à fracturer la porte parce que le bail n'était pas à mon nom.
Là-bas, il faut surtout pas s'amuser à fracturer la porte, je pense.
Voilà, donc je me suis retrouvé face juste finalement à une serrure que je ne pouvais pas ouvrir. Et donc les plaintes sont encore une fois classées, et donc je prends un avocat et on dépose une troisième plainte en décembre. Et le 24 décembre, on se retrouve au commissariat avec mon épouse et ma fille. Donc, je revois ma fille pour la première fois au bout de 2 mois. On est auditionné tour à tour. Moi, j'explique tout ce qui s'est passé. Et puis, juste avant d'être auditionné, mon avocat me dit qu'au vu de ce qu'on lui reproche et des différents certificats d'huissier et des enregistrements certifiés par ce même huissier où elle revendique l'enlèvement de notre fille, qu'elle se moque même de pouvoir potentiellement finir en prison. Enfin, j'ai des enregistrements assez saisissants qui montrent en plus cette folie finalement qu'elle ne maîtrise pas parce qu'une mère équilibrée ne veut pas dire ça. Voilà. Ouais. Donc, mais j'ai fait certifier tous ces documents. Et finalement, suite à l'audition, elle repart librement avec ma fille et elle redisparaît par la même occasion, quoi. Et je me
Comment
retrouve
on
encore
vous
une fois
justifie
sans
ça,
nouvelles.
là-bas, à Agadir, la police, elle vous dit quoi?
Bah,
Elle ne
on
se
me dit
justifie pas?
que... Non, alors dans un premier temps, elle ne se justifie pas. En décembre, le 24 décembre, je me retrouve sur le trottoir du commissariat, sans réponse, sans rien. Je vais voir mon avocat, il me dit, bah non, bah, il y aura peut-être une enquête. Et puis non, il se passe rien. Et j'ai plus de nouvelles de ma femme, de ma fille. Les numéros, ne sont plus en service, ceux que je connaissais. Quand j'essaye d'appeler ma belle-famille, personne ne me répond. Donc voilà, encore une fois, j'ai plus aucune nouvelle de ma fille. J'avais sollicité déjà depuis un moment le consulat de France pour une aide, quelle soit, parce que
Oui.
je pensais qu'il pouvait
Et alors?
m'aider dans... Bah, j'ai été reçu finalement en février par la consul, et elle a réussi à me fournir un rendez-vous chez le procureur en
Oui.
charge de cette plainte,
Ce qui est
le
plutôt
procureur
bien quand
d'Agadir,
même. C'est
qui est plutôt bien,
oui.
qui est plutôt bien. Donc elle m'a permis au moins de rencontrer le procureur. Et finalement, suite à ça, ils ont retrouvé ma femme au domicile de mes beaux-parents.
Oui.
Et on a été une nouvelle fois tous convoqués le 15 mars. Le 15
Devant
mars.
un
Donc,
tribunal ou devant les
non,
policiers?
dans le bureau du procureur.
Ah, dans le bureau du procureur, d'accord.
Voilà. En plus, je me fais un peu piéger ce jour-là. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais moi, on me dit de venir seul, que je vais enfin voir ma fille.
Vous
Bon,
venez
je
pas
me
avec
réjouis de
votre
ça,
avocat?
mais non, je viens seul. Et qu'elle sera seule avec ma fille. Et en fait, quand j'arrive, elle est avec son avocat, qui s'entretient déjà lui seul avec le procureur
Ah
avant de
ouais,
nous
voilà.
recevoir. Et on rentre. Et en fait, on nous demande chacun ce qui se passe. Donc moi, j'explique tout ce que j'ai vécu. Le procureur a mon dossier sous les yeux, avec toutes les plaintes, avec les différents documents qu'on a, les certificats d'huissier. Voilà. Elle explique que ça fait maintenant plus de 3 ans qu'elle vit seule et qu'elle assume ma fille seule. Alors là, on est dans du délire, parce que... J'ai, voilà,
Vous avez payé depuis trois
oui,
ans.
enfin, c'est fou parce que à ce moment-là, je découvre qu'elle s'invente une vie. Elle fait croire qu'elle vit et qu'elle assume seule ma fille. Bon, d'ailleurs, elle a par la suite demandé une compensation financière sur ces 3 années. C'est une affaire qui est aussi en cours auprès du tribunal de la famille en ce
Bah
moment.
tiens.
Ça, c'est quelque chose qu'elle a mis en place.
Bah
Elle me réclame à peu
c'est
près,
son avocat.
voilà.
Elle n'est pas
Elle me
assez maline,
réclame.
elle n'est pas assez maline et équilibrée pour l'avoir mis toute seule en place, ça.
Non, non, je
C'est
pense
son
pas.
avocat.
Mais ça va être jugé normalement courant décembre. Donc elle réclame un peu plus de 30 000 euros en prétextant que ça fait 3 ans qu'elle paye les loyers,
Toute
l'école de
seule.
ma fille, toute seule. Sauf que bah, dans un premier temps, elle a pu essayer de le justifier parce que comme elle m'a mis dehors, elle a gardé l'ensemble des papiers, des quittances de loyer, des factures d'école. Mais bon, moi, je suis allé voir mon propriétaire qui m'a fait des quittances à mon nom parce qu'il savait très bien que c'était moi
Oui, donc c'est vous
qui
qui
l'avais
payez tout
payé.
ça.
L'école de ma fille, la directrice, m'a reçu et m'a ressorti tous les paiements. Enfin, voilà,
Donc ça veut dire que,
ça
est-ce
tient
que le
pas.
procureur, ce jour-là, se rend compte qu'elle ment?
Non, pas du tout. Je pense que à ce moment-là, je vous dis, ils se disent, je pense, hein, que c'est une histoire de couple, qu'ils en ont rien à faire finalement. Ils nous demandent de divorcer presque. Ils nous disent, bah, vous n'avez qu'à divorcer si finalement c'est aussi simple que ça.
Oui. Et la loi marocaine, vous me dites que la loi marocaine donne la garde de l'enfant automatiquement à la mère.
C'est très difficile d'obtenir le contraire. En fait, si vous voulez, certains avocats m'ont dit ça. Ils m'ont dit, bah, laissez-lui la garde. De toute façon, elle l'aura automatiquement. Et dans un deuxième temps, par exemple, si elle ne respecte pas votre droit de garde, en plus, le droit de garde pour un papa au Maroc, c'est une seule journée. C'est le dimanche de 9 h à 18 h.
D'accord.
Donc, on me dit
Sympa.
que si elle ne respecte pas ça, au bout de 2 fois, elle peut perdre la garde. Mais bon, c'est la seule chose qui
Mais je vais
peut
vous
peut-être
dire,
effectivement.
je ne sais pas ce qu'elle fait actuellement, hein, et visiblement, ce n'est pas sa famille qui peut l'aider. Est-ce que vous avez pensé à couper tout financièrement? Parce qu'il n'y a que
Ah
comme ça que
oui,
vous allez
mais
obtenir des
tout est
choses.
coupé. Non, mais aujourd'hui, tout est coupé. Tout
D'accord.
est coupé. Aujourd'hui, si vous voulez.
Vous ne donnez plus un dirham là maintenant.
Non, 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 mais je ne sais même pas où elle vit aujourd'hui.
D'accord. Donc vous ne voyez
On
pas votre
l'aperçoit de temps
fille
en temps.
aujourd'hui?
Alors, si, justement, j'en viens à ce 15 mars où finalement, chez le procureur, on nous demande de descendre chez une assistante sociale. Et là, l'assistante sociale me demande de signer un document en arabe où on me dit, en gros, Ben voilà, est-ce que vous acceptez de voir votre fille en présence de votre épouse quand elle le veut? Dans un premier temps, je refuse. Non, c'est pas du tout ce que je veux, et parce que je sens que ça va pas être gérable du tout, la situation. Et là, on me dit, bah, en gros, si vous signez pas ce document, ça veut dire que vous voulez pas voir votre fille. Alors j'ai dit, bah si, je vais signer ce document. Donc depuis ce jour, depuis le 15 mars, je vois ma fille de temps en temps, c'est-à-dire en moyenne 2, 3 fois par mois, pendant 1 ou 2 heures, dans un lieu public, en présence de ma femme, et souvent, elle est accompagnée, soit l'un de ses petits caïds de frères, ou d'amis, où elle me ramène les enfants du quartier, enfin voilà. Et c'est les seules fois où je
Ah
vois ma
d'accord,
fille,
vous êtes
c'est...
sous haute surveillance.
Voilà, exactement.
Au Maroc,
Exactement. Et elle...
donc la visite médiatisée, c'est pas avec un éducateur, mais c'est plutôt avec les caïds pour vous
Non, parce
impressionner,
que
en fait.
c'est même pas une visite médiatisée. En fait, moi, si vous voulez, je signe
Non,
ce
mais
document et je demande à...
j'ironisais, Quentin,
Oui,
j'ironisais.
c'est très bien. Et d'ailleurs, ça revient au sujet d'avant, de tout à l'heure. Mais là, pour le coup, au moment où je signe ce document, je demande à l'assistante sociale si ce document a une valeur juridique. Et elle me dit non, pas du tout.
Alors pourquoi vous le
Mais
signez?
aujourd'hui,
Enfin,
ma
pourquoi elle
femme,
veut? Ouais.
elle se protège derrière ça en disant, bah, je t'empêche pas de voir ta fille. Je respecte finalement le document qu'on a signé, et puis bah, si t'es pas content, t'as qu'à aller divorcer.
Alors, on n'a plus que 7 minutes, Quentin.
Je vous en prie. Oui.
Aujourd'hui, elle vit de quoi? Comment va votre petite, surtout? Parce que sans
Alors moi, la
argent.
petite, non, mais la petite, elle est très marquée, elle est privée de son papa. Comme je vous l'ai dit, on avait une relation très très forte, et je la vois finalement, elle est triste, elle est renfermée. Et puis elle essaye d'être, enfin, elle est transformée par sa mère. Aujourd'hui, ma fille ne parle pratiquement plus français. Elle essaye de la déraciner de tout ce monde, en fait, finalement. Aujourd'hui, oui, c'est très très difficile. Et puis surtout, je constate assez souvent des bleus sur le visage, sur les jambes, sur des rougeurs, des choses vraiment qu'on n'arrive jamais à me justifier. Quand je demande des comptes, la maman s'énerve et puis elle quitte le rendez-vous et finalement je vois ma fille un quart d'heure. Donc j'ai juste à fermer ma bouche lors de ces entretiens, de ces rendez-vous, et je constate ça. Donc j'ai déposé une plainte cet été pour maltraitance, en tout cas mise en danger, en montrant des photos de ma fille, et encore une fois, la plainte a été classée. Donc on a déposé une plainte en février en France au parquet de Paris, et j'essaie d'aller vite,
Parce qu'elle est
qui n'a
française, votre
pas...
petite, elle est reconnue
Voilà,
comme
exactement.
française.
Donc on a déposé une plainte pour enlèvement, refus de remettre
Ouais,
l'enfant
ouais.
à son tuteur et mise en danger de mineur. La plainte n'a pas été traitée pour l'instant et on va se porter là dans les jours à venir partie civile sur cette plainte. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de médiatiser pour essayer de donner un petit peu de poids parce que aujourd'hui, je vous dis, je me fais du au-delà de ma souffrance parce qu'elle est insupportable. On me prive de ma fille, je la vois dépérir, je n'ai plus aucun droit, je suis
Quand vous la
depuis un an
voyez,
dans un hôtel.
ça se passe bien avec la petite?
C'est très difficile, c'est changeant. Au début, on était très heureux de se retrouver, mais aujourd'hui, c'est aussi, enfin, je peux le comprendre parce que je pense que
Mais
sa mère
oui,
lui raconte beaucoup de choses.
ouais.
Et notamment que je ne suis pas disponible pour elle. C'est toujours moi
Ouais.
qui n'ai pas le temps.
Et
Et
mon
ma fille
pauvre,
m'en
vous
veut
êtes.
de temps en temps, malgré l'amour qu'elle a pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de médiatiser pour que ça bouge, parce que ça fait déjà un an et que Mia, elle est en danger quotidiennement. C'est une femme déséquilibrée qui peut se battre avec un inconnu dans la rue. Elle a déjà fait pour un regard, qui est capable de faire des queues de poisson à un chauffeur parce qu'il l'a mal regardée. Et ma fille vit quotidiennement avec cette femme. Quand je la vois, qu'elle me la ramène de temps en temps, enfin qu'on la voit ensemble un dimanche, je vois ma fille arriver sur le siège passager de la voiture à l'avant sans ceinture. Enfin, on sait des choses. Tous les jours, elle est en danger. Au-delà du fait que elle est dans ce quartier très populaire à Inès Gann, je ne sais pas vraiment dans quelle rue, j'ai pas son domicile, mais je sais à peu près où elle est, puisque sa belle famille est là-bas. Ce sont des quartiers dangereux où les enfants traînent, certains sont vraiment démunis.
Bien sûr, bien sûr.
Moi, ma fille n'est pas, enfin, elle est en danger, ouais, quotidiennement, d'autant que.
Malheureusement, j'ai envie de vous dire, Quentin, que vous êtes en train de nous décrire un système qui ne vous est pas du tout favorable. Et si il y a des Français installés au Maroc ou qui comptent s'installer hein, et qui, comme vous, peut-être sont dans une histoire avec... une jeune femme de nationalité marocaine, il faut bien qu'à travers l'histoire que vous nous racontez, Quentin, qu'ils comprennent que le droit marocain il est fait.
Il est différent.
Et pour. Non, il est. Oui, il est différent, ça c'est sûr. Il est.
Mais aujourd'hui, il est différent, mais
il est pro-marocain surtout. Parce qu'il y a pour la femme, mais là, en ce qui vous concerne, pardonnez-moi, il y a une femme, c'est sûr, elle a des droits, mais il y a un papa dont on ne respecte pas les droits. Et tout ça, je vais vous dire, au nom du fait que vous êtes français et qu'elle est marocaine. C'est tout. Le droit marocain, aujourd'hui, c'est pour les Marocains. Vous, de tout ce que vous m'avez raconté ce soir, vous n'existez pas. On ne vous respecte pas. On ne respecte pas vos droits, Quentin. Et je vous le dis parce que je connais bien le Maroc. En plus, j'y suis allé souvent, une bonne vingtaine de fois. C'est un pays formidable. C'est un merveilleux pays. Cette terre, je le dis souvent sur cette antenne, elle est habitée. L'Inde m'a fait le même effet que le Maroc.
Quand je pose les
pieds là-bas,
ce pays,
ouais. Ce pays est un... Et les Marocains sont formidables. Maintenant, ce que vous traduisez, c'est assez horrible, finalement, parce que ce pays pourrait accéder à, vous voyez, à une modernité et dans les mentalités. Mais finalement, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, parce que le Maroc est une royauté où le droit, en fait, il est dicté par... la royauté, et que tout ça, c'est de la poudre aux yeux, les politiques, le Parlement, tout ça, c'est... Aujourd'hui, le droit, quand vous êtes français au Maroc, il vaut mieux pas avoir d'embrouille là-bas, je vous le dis. Et vous, vous en êtes la preuve vivante.
Oui, j'en suis la preuve. Mais si vous voulez, c'est aussi pour ça que j'essaye d'appuyer auprès de la justice française. Parce qu'on peut
vous faites bien, parce que cette petite Mia, elle est française.
Oui, elle est française. Et c'est pour ça qu'on a déposé une plainte et qu'on se constitue partie civile. On a sollicité les ministères.
Vous dites qu'elle est française, mais elle a la double nationalité. Elle est marocaine aussi.
Elle a la double nationalité, voilà. Sauf que ma femme n'a jamais vraiment déclaré ma fille et qu'aujourd'hui, si elle veut le faire, pour qu'elle soit vraiment en règle au niveau de ses papiers marocains, elle a besoin de mes documents qu'elle n'a pas. Donc, elle est de naissance de mère marocaine. Elle est marocaine d'office, on vous dit ça. Vraiment, au niveau des papiers, elle a son passeport français, et elle n'a pas sa carte d'identité marocaine.
On n'a plus que très peu de temps, Quentin. Oui. On va parler, bien évidemment, de la cagnotte Litchi que vous avez mis en place pour vous venir en aide. Hein. Mais qu'est-ce que vous attendez en ayant cette perspective-là, Quentin? Qu'est-ce que vous attendez
si vous
réellement
voulez, moi, j'espère toujours que la justice se positionne au Maroc et en France. Comme vous l'avez dit, au Maroc, ça va être très compliqué, mais en France, j'espère, parce qu'il existe une coopération.
Oui, mais vous savez qu'il n'y a pas de... Autant qu'il n'y a pas d'extradition. Hein. On a eu sur cette antenne un jour... d'ailleurs, j'ai été appelé par l'ambassade du Maroc le lendemain parce que, voilà, j'avais juste une auditrice qui avait été violée, hein, séquestrée, volée et violée et même torturée par un gars marocain qui était parti ensuite se réfugier au Maroc et il vivait tranquillement, il coulait des jours heureux au Maroc parce qu'il n'y a pas d'extradition entre le Maroc et la France.
C'est très compliqué. Ouais,
donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Mia est avant tout marocaine. Et c'est ça qui va être compliqué.
C'est
ça qui va être compliqué.
Mais on espère, vous savez, c'est aussi pour ça qu'on a créé la page de soutien sur Facebook. On espère toujours pouvoir avoir un coup de pouce. Et la médiatisation, on y a pensé souvent. Mais aujourd'hui, on passe par ça. Parce que
moi, je pense que la seule chance que vous avez aujourd'hui, c'est que cette femme, elle manque de moyens. Mais bon, les Marocains sont très... Enfin, je veux dire, les Marocains comme partout dans le monde, mais il y a la famille là-bas, il y a un truc, il y a un lien, les enfants.
Elle
préférera voir sa fille pauvre plutôt que de vous la confier pour qu'elle puisse avoir une meilleure vie, une meilleure éducation.
C'est sûr.
Vous devez le sentir, de la part de...
Oui, clairement. Mais moi, je vous dis, je suis déterminé.
Bien sûr.
Aujourd'hui, je souffre terriblement.
Bien sûr.
Toute ma famille souffre en France. Enfin, voilà. Mais déjà, j'aimerais remercier juste encore un instant tous les gens qui nous soutiennent, qui nous aident, les proches comme les anonymes. C'est vraiment... La médiatisation m'a apporté cette force parce que cet été, j'ai vraiment vécu une dépression. C'était très difficile. Je suis isolé ici, malgré le fait d'avoir quelques amis. C'est très difficile. Ma famille est en France. Mais vraiment, déjà, remercier les gens qui m'aident ici au Maroc aussi. Mais le soutien depuis la médiatisation, des gens qui m'envoient des messages, ça me donne beaucoup de force. J'ai aussi discuté avec des parents qui vivent la même chose par l'intermédiaire de l'association 116 000 enfants disparus.
Mais oui.
Voilà, donc merci vraiment à tous les gens qui nous aident dans leurs conseils, dans leurs messages de soutien, tout simplement. Et puis, bah, ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations, comme je l'ai dit, il y a une page sur Facebook où on explique un petit peu les détails. On va se battre jusqu'au bout, Olivier. Vous savez, moi, c'est le combat de ma vie, hein.
Bah, bien
On m'a
évidemment, c'est
arraché une
votre
partie de
enfant.
moi.
Ouais.
On m'a arraché une partie de moi. J'étais vraiment, et je reste un père, papa, poule, gaga, tout ce que vous voulez. Les gens qui me connaissent, les gens. D'ailleurs, mes réseaux sociaux sont un peu notre journal au quotidien avec ma fille, parce que ma famille étant en France, c'était une façon aussi de partager notre quotidien. Donc, si les gens veulent apprendre à découvrir Mia, qu'ils aillent sur les réseaux sociaux. Il y a une page Mia et Quentin qui découvrent qui est Mia et puis quelle histoire on avait.
Alors, sur Instagram, Quentin et Mia, je suppose que c'est la même
Et
chose
sur
sur
Facebook,
Facebook
ouais,
aussi.
exactement.
Il y a une cagnotte Litchi qui a été mise en place. On va relayer ces informations car nous aussi,
C'est
bien
très gentil,
évidemment,
Olivier.
on se joint à votre combat, qui est un combat
Merci. Merci beaucoup.
évident pour nous de vous soutenir. Et puis, bien évidemment, armez-vous de courage, mon cher Quentin, parce qu'il va vous en falloir. Encore une fois, lorsqu'on est français, mieux vaut ne pas avoir de problème là-bas. À bon entendeur, salut, comme j'irai, parce que c'est malheureusement la réalité. La réalité, c'est que le droit marocain avantage les Marocains. Bon. Et c'est dans ce genre d'histoire, on ne peut pas attendre. Vous voyez, vous êtes passé devant la police, vous êtes passé devant un procureur avec une mère qui
Ah oui, j'ai tout fait, Olivier,
mentait
vous avez le meilleur
délibérément
film.
avec des mensonges de soi-disant de loyers payés, d'écoles payées, alors que le procureur a eu. Hein, donc,
Oui.
un procureur ici en France aurait jugé autrement si le dossier avait opposé Quentin français à, je ne sais pas comment s'appelle cette demoiselle, marocaine, mais la justice française aurait pu trancher pour la maman, si, bien évidemment, elle avait estimé que la maman était en droit de. Au Maroc, on peut mentir, on peut faire n'importe quoi, finalement, et puis ben, c'est vous qui êtes tout seul et qui ne voyez pas votre fille aujourd'hui. Et je vous avoue que ça me met super en colère parce que, comme je vous l'ai dit, je connais bien le Maroc et c'est un pays formidable. Les Marocains sont formidables et
Oui,
voilà,
vraiment.
ça veut dire que la justice est un peu curieuse là-bas. Donc, voilà.
Oui, il faudra, comme vous l'avez dit, le Maroc va se moderniser, mais il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup
Beaucoup
de
de
temps, et
temps,
notamment pour
beaucoup,
ces institutions.
beaucoup.
Et j'en suis convaincu, je le vis au quotidien, Olivier,
Ouais.
mais ça ne va pas m'empêcher de me battre.
Bien
Je vous
sûr, bien
garantis que
sûr.
je suis déterminé, voilà, je suis soutenu. Et on fait cette cagnotte, j'en reviens, c'est aussi pour nous aider un peu financièrement, parce que ça engendre beaucoup de frais.
Bien sûr.
J'ai deux avocats en France, un avocat ici au Maroc, et la constitution de partie civile. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé cette cagnotte.
Mais écoutez,
C'est ma sœur et ma mère qui ont créé ça en France.
on relaie toutes ces informations que
C'est très gentil.
vous retrouverez sur notre page Facebook, chers amis qui nous écoutez. Et puis, bah, Quentin, on vous souhaite une bonne soirée et puis beaucoup de courage. D'accord?
Merci Olivier, merci
Au
pour votre
revoir,
écoute
portez-vous
et
bien,
vous
je vous
pouvez.
en
Au
prie.
revoir.
Au revoir.